Vous êtes de retour au neuf et puis maintenant c'est le temps d'accueillir en studio Bromor Raman, animateur ici sur les ondes de CFAQ, l'émission Ma Radio Academia. Salut Bromor, ça va bien?
Bon matin Alex et merci de m'avoir invité encore une fois pour ma chronique culturelle matinale sur le neuf.
Ben oui, ben merci de venir nous parler cette fois de, culturel, peut-être plus aussi politique. Ben en fait, ça touche un peu toutes les sphères, mais ça concerne particulièrement la communauté étudiante aussi internationale ici et plusieurs futurs professionnels québécois ou non futurs professionnels. Là, ben, on va parler en fait de l'abolition du programme Expérience Québec, c'est bien ça? De l'expérience québécoise, pardon. Ça fait... Ça fait des remous un peu dans l'actualité depuis les derniers jours, des dernières semaines. Puis tu voulais nous présenter un peu les deux côtés de la médaille, mais aussi un peu là, qu'est-ce qui explique cette abolition-là, là, c'est ça?
C'est exact, Alex. Le 19 novembre 2026, le programme de l'expérience québécoise, ou le PEC, a pris fin et en a laissé plusieurs en limbo depuis. Plusieurs d'entre eux, des membres de notre communauté étudiante et même facultaires ici à l'Université de Sherbrooke. Pourtant, le principe du PEC était simple. Si vous voulez vous installer au Québec, il y a deux portes qui s'ouvrent à vous. Le premier volet des diplômes était adressé aux étudiants internationaux ayant terminé leurs études au Québec. Tous les diplômes reconnus du DEP au doctorat étaient éligibles tant que 75% du programme d'études était en français. À partir de novembre 2023, les étudiants internationaux pouvaient donc postuler au PEC dès la diplomation. Le second volet des travailleurs étrangers temporaires concernait les travailleurs déjà en poste au Québec. Pour être éligible au PEC, ces travailleurs devaient occuper un poste à temps plein dans une catégorie de profession admissible, donc qualifiée, ce qui veut dire au moins avec une cote de FEER3. On parle donc d'emplois qui demandaient au moins un diplôme de niveau collégial ou équivalent. Okay. Ils devaient acquérir au moins 24 mois d'expérience de travail à temps plein au Québec dans les 36 mois précédant la demande. Évidemment, un niveau de français au moins de niveau 7, donc intermédiaire avancé, était requis. Et il fallait démontrer au moins 3 mois de subsistance à l'arrivée, donc pas d'accès à l'aide sociale ou d'autres programmes du genre. Si ces critères étaient respectés, le postulant pouvait obtenir un précieux certificat Sélection Québec, une CSQ, pour avoir la résidence permanente. Sur l'abolition du programme, le gouvernement de son bord se dit en plein pouvoir de modifier ses politiques et que l'immigration n'est pas un droit, mais un privilège. Notamment, le gouvernement parle d'un changement de priorité que le nouveau programme de sélection de travailleurs qualifiés, la PSTQ, accomplit. Parmi les enjeux, on retrouve donc le dépassement des seuils d'immigration, la raison immédiate donc évoquée par le ministère de l'Immigration Jean-François Roberge est que le nombre de demandes avait atteint ou dépassé les plafonds d'admission fixés dans les planifications pluriannuelles du Québec. Deuxièmement, la sélection par besoin plutôt que par ordre d'arrivée. Le PEC fonctionnait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le gouvernement jugeait que ce modèle favorisait les candidats sans emploi ou peu qualifiés au détriment de travailleurs essentiels comme ceux dans la santé, désormais priorisés par le nouveau PSTQ. Puis enfin, il y a l'objectif de régionalisation. Environ 60% des admis via le PEC s'établissaient à Montréal. Le gouvernement souhaite utiliser le nouveau système PSTQ pour diriger davantage les immigrants vers les régions du Québec. Avec ça, évidemment, il y a aussi les questions de capacité d'accueil et services publics, puisque la fin du programme s'inscrit dans une volonté de stabiliser la croissance de la population pour respecter la capacité d'accueil des services publics et répondre à la crise du logement. Et finalement, le déclin du français... Le gouvernement souhaite instaurer des exigences linguistiques plus rigoureuses dès l'étape de la sélection pour assurer la pérennité de la langue française dans un contexte d'anglicisation, notamment à Montréal et à Laval. Donc, le PSTQ utilise désormais des critères de pondération, donc un système à points pour favoriser certains profils. Plutôt que premier arrivé, premier servi, ça peut certainement rappeler le système H1B pour les visas aux États-Unis. Premièrement, le système favorise les secteurs stratégiques, donc il y a une priorité absolue aux travailleurs en santé, éducation, construction et génie. Il y a une régionalisation, donc les candidats vivant hors de Montréal et Laval reçoivent plus de points pour encourager l'occupation du territoire. Et finalement, il y a aussi le délai, parce que le traitement est généralement plus long, on parle de 15 et 20 mois, parce que ce n'est plus premier arrivé, premier servi, maintenant il faut une invitation du ministère de l'Immigration. Bien que le gouvernement ait le pouvoir légal de modifier ses programmes d'immigration, l'abolition du PEC soulève plusieurs enjeux critiques. D'abord, il y a l'enjeu de l'instabilité et la perte de confiance en matière de politique publique, puisque le changement de règles se fait en cours de route. C'est comme si en plein game de hockey, les arbitres changeaient les règles. Donc, de nombreux étudiants et travailleurs ont choisi le Québec sur la base de la promesse d'une voie rapide vers la résidence permanente offerte par le PEC. L'abolition soudaine du programme est perçue comme une injustice envers ceux qui ont investi temps et argent en fonction de ces critères. Puis ensuite, et ça c'est l'enjeu qui est juridique, qui est contraignante, c'est l'absence de clause de droit acquis. Contrairement aux attentes du milieu des affaires et des universités, aucune clause de droit acquis n'a été instaurée pour protéger les personnes déjà sur le territoire. Donc imaginez, vous êtes qualifié pour le PEC, vous appliquez, votre demande est en attente et hop, le gouvernement change les règles et dit « ah ben maintenant vous ne l'êtes plus ». Ensuite, il y a l'impact sur l'économie et les services publics, évidemment. Et la pénurie de main-d'œuvre, donc le programme permettait déjà de retenir des talents déjà intégrés, formés et francophones, important. Son retrait aggrave les difficultés de recrutement, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation, et de d'autres, on en parlera plus tard. Ensuite, il y a les coûts et la lourdeur pour du côté des entreprises. Le remplacement du PEC par le PSTQ impose aux employeurs des démarches plus coûteuses. On parle de plus de 1 200 $ par poste, une imprévisibilité accrue car les invitations ne sont plus garanties. Maintenant, c'est sur demande. Enfin, il y a la question de l'attractivité de la région du Québec. Ici, il y a deux volets. D'abord, il y a la réputation internationale. L'instabilité des politiques migratoires nuit à l'image du Québec à l'étranger et incite les talents internationaux à privilégier d'autres provinces canadiennes ou des pays offrant plus de stabilité en matière d'immigration. Et enfin, la vitalité des régions, les établissements d'enseignement, notamment les cégeps en région, craignent une baisse marquée des inscriptions d'étudiants étrangers pour qui le PEC était un argument de poids. Donc, évidemment, il y a 2 semaines, les candidats pour la chefferie de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont annoncé à contre-courant de leur parti qu'ils seraient prêts à faire des compromis entre le maintien du PEC et l'abolition. Madame Fréchette propose une période de transition de 2 ans pour les résidents au Québec au moment de l'abolition du programme. Monsieur Drainville, en revanche, propose une clause de droits acquis pour tous les travailleurs temporaires dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, la construction ou l'ingénierie. Ce changement de ton ne surprend pas lorsqu'il y a des prises de parole qui unissent les municipalités de Montréal et de Québec, ou plus surprenamment, le Conseil national des syndicats et le Conseil du patronat. Plusieurs secteurs de commerce voient déjà des pertes d'employés, dont les hôtels Place d'Armes et Néligan à Montréal, alors que la saison touristique n'est qu'à quelques mois et arrive à grands pas. Ce n'est qu'un exemple, mais d'autres emboîteront certainement le pas prochainement dans les circonstances actuelles. Contrairement aux dépasseurs de visas touristiques ou les clandestins du chemin Roxane, pourtant, les étudiants et travailleurs sélectionnés via le PEC sont précisément les exemples d'immigration légale et qualifiée francophone que le Québec dit vouloir accueillir. Quel genre de message est-ce que le gouvernement envoie lorsque des demandeurs d'asile ont plus de facilité à demeurer au Québec et reçoivent plus de services sociaux que des étrangers qualifiés dont le Québec dit avoir besoin? C'est la question que posent plusieurs qui sont actuellement impactés par l'abolition du PEC dans le débat public. Et Alex, si les réactions de part et d'autre indiquent une chose, c'est que cette situation aurait pu facilement être évitée. Or, le PEC serait-il en voie de devenir le nouveau troisième lien?
Peut-être, on ne sait pas. Là, ça va sûrement s'inviter dans les débats électoraux de cette future campagne là, qui, au plus tard, là, va se terminer au début de l'automne. Tu n'as peut-être pas la réponse nécessairement, mais on se doute peut-être que la CAQ ne sera pas de retour dans le gouvernement, que ce soit majoritaire ou minoritaire. Là,
pour c'est la partie dans Chicoutimi hier, Nadine.
Oui, non, c'est
chose.
Ça, exactement. Est-ce qu'on connaît un peu les positions des autres partis concernant cette abolition? Là, est-ce que là, je veux pas te faire inventer des trucs non plus là, c'est pas, ça sort peut-être de ta préparation, mais est-ce qu'on sait globalement ce que le Parti libéral ou ce que le Parti québécois pense de cette abolition là?
Les plateformes électorales ne sont pas encore sorties, donc c'est difficile de déterminer exactement quelle est la prise de position en termes de matière de politique publique de chaque parti. Par contre, ce n'est pas surprenant de voir que Paul Saint-Pierre-Plamondon se penche plutôt dans la direction à une, peut-être pas une abolition immédiate, mais progressive. Une fois que toutes les demandes seront procédées, qu'il y aura une fin du PEC et un programme plus apte aux objectifs du Parti québécois, donc la pérennisation de la langue française et vraiment ciblé sur les travailleurs essentiels. Le Parti libéral, Charles Meillard, c'est pas surprenant, quelqu'un qui vient qui a un background de chambre de commerce, qui est certainement plus proche du conseil du patronat, qui est en faveur du maintien du PEC ou d'un programme de ce genre plus proche du PEC que du PSTQ pour une longue durée. Évidemment, on sait que les patrons d'entreprise, eux, ils aiment ça, la stabilité, notamment parce que c'est bon pour les entreprises. Ouais. Donc, je crois que de ce côté-là, ça ne surprendra pas. C'est un peu ça que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu vraiment du bruit de chez QS. Ça, on verra ce qu'eux, ils ont à dire de ce côté-là.
Ouais.
Mais en tout cas...
Une chose est sûre, et comme dans tout changement quand même assez important d'un programme de loi ou peu importe, la clause justement du droit acquis est assez primordiale et puis ça semble une chose facile à régler, il me semble. On verra si les pressions sont assez fortes sur Drainville et Fréchette pour peut-être leur faire ajouter ça éventuellement à court terme pour sauver un peu les personnes, les immigrants qui sont au Québec en ce moment puis qui là, vont peut-être être contraints à quitter ou en tout cas à modifier leur plan de vie. Et bref, c'est ça, la question du droit acquis est assez importante puis on va espérer, toi j'imagine en tant que juriste.
Ce n'est pas seulement important, c'est essentiel. Le droit acquis, c'est un principe central qui suit le principe de la non-rétroactivité des lois. Mm-hmm. Donc on ne peut pas intégrer quelqu'un dans un programme de gouvernement où il est déjà dans le processus et ensuite rétroactivement le sortir de ce programme et finalement le pousser à la déportation ou le pousser hors du pays parce que maintenant les politiques publiques ne font plus affaire. Il faut passer tous ceux qui sont dans le système. Ensuite, on peut fermer la porte.
Oui, exactement. Donc, ce sera très intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, d'être venu un peu nous parler de cette abolition-là, puis des positions, en fait, des deux parties. Et tout ça, c'est très, très intéressant. Nous, on s'en va en musique et on revient vers 10h15 pour une autre entrevue.